fidèles auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse du studio Kalungu de ce vendredi 16 juillet 2021. Votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse sur des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse. Au menu du numéro de ce soir, nous discuterons d'abord de la visite du président de la République, Mohamed Bazoum, en Europe la semaine écoulée. Un périple qu'il a conduit d'abord dans la capitale allemande, Berlin, où il a eu une séance de travail le jeudi 8 juillet 2021 avec la chancelière allemande, Madame Angela Merkel, avant de se rendre à Paris où il a participé par visioconférence à un sommet extraordinaire du G5 Sahel. Dans la deuxième partie de ce forum, il sera question des enjeux du nouvel élan que prend la coopération nigéro-algérienne avec l'annonce de la réouverture de la frontière entre les deux pays à l'issue de la visite du président de la République, Mohamed Bazoum, à Alger. Pour discuter de tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir ce soir nos confrères Gary Amadou, journaliste au journal La Nation, Abba Kiari Arimi, qui est journaliste à la radio alternative, et Hussein Issa, il est journaliste indépendant. Bonsoir et bienvenue dans ce forum de la presse, chers confrères. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Une fois de plus, bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans ce numéro du Forum de la presse de Studio Kalungu que nous débutons par cette visite du président de la République en Europe. Ce périple a tout d'abord conduit le chef de l'État, Mohamed Bazoum, dans la capitale allemande, Berlin, où il a eu une séance de travail le jeudi 8 juillet 2021 avec la chancelière allemande, Madame Angela Merkel. Selon Mohamed Bazoum, il s'agit surtout à travers cette visite de travail d'amitié de remercier Madame Merkel à la veille de son départ de la tête de l'Allemagne pour son engagement en faveur du renforcement de la coopération entre le Niger et l'Allemagne. Mohamed Bazoum a par ailleurs demandé aux autorités allemandes de maintenir le cap et de faire en sorte que cette coopération se renforce encore davantage. Gary Amadou, que tire le Niger de cette coopération nigéro-allemande et que pourrait-il gagner davantage?
Le Niger tire beaucoup dans le cadre de la coopération avec l'Allemagne, parce qu'il faut, quand même le dire, ça fait pratiquement depuis les indépendances que l'Allemagne accompagne le Niger dans le cadre de son développement à travers la GIZ, l'ancienne, l'ex-GTZ, vous comprenez? Donc il y a beaucoup de projets de développement dans plusieurs domaines qui sont mis en œuvre grâce à cette coopération-là. Et je pense que la visite du président en Allemagne permettra de renforcer cette relation et puis de donner un nouvel élan encore un peu plus vigoureux. Et l'Allemagne aussi intervient au Niger sur le plan aussi de la lutte contre l'insécurité à travers un appui au génie militaire. L'Allemagne, c'est vrai, n'a pas un gros contingent, mais l'Allemagne quand même est en train d'apporter, de renforcer la capacité militaire du Niger dans le cadre de la lutte contre l'insécurité à travers, comme je l'ai dit, un appui au génie. Et donc je pense que c'est une coopération très fructueuse et je pense que c'est ce genre de coopération qui vont permettre à des pays comme le Niger de pouvoir se développer, c'est-à-dire un engagement, bien sûr, c'est pas gratuit. Comme le sait, en matière de coopération, toute aide n'est pas gratuite. Mais quand même, je pense que la coopération allemande, comme je l'ai dit, à travers la GIZ et à travers d'autres projets de développement, est en train quand même de marquer des points dans plusieurs domaines, l'éducation, l'agriculture, etc., etc. Beaucoup de domaines qui sont touchés par cette coopération-là.
Oui. Il faut rappeler que, répondant à une question d'une journaliste de la chaîne internationale allemande, de Kevele, sur la question de savoir si le Sahel a besoin que l'Allemagne lui envoie plus de soldats, Mohamed Bazoum a répondu en ces termes. Vous voyez que la France est en train de diminuer les effectifs de ses soldats parce qu'ils sont totalement non nécessaires. Nous n'avons pas besoin vraiment de soldats au sol dans le cadre des opérations militaires qui peuvent être menées dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons besoin de nos partenaires européens pour ce qu'ils savent faire et pour lequel nous n'avons pas les moyens. Fin de citation. Abba Kyari Arimi, quelle analyse par rapport à ces propos du chef de l'État Mohamed Bazoum,
Je
justement
pense que
pendant sa présence sur le territoire allemand?
Moi, je crois que le président de la République est resté sur sa ligne déjà avant son élection. Et puis, juste après son élection, il l'a dit et il l'a réaffirmé, notamment concernant la France, pour dire que nous avons plus besoin de leur savoir-faire aérien que vraiment de la... Parce que la question qui lui avait été posée, c'était de savoir... Si, déjà, il était question que la France retire, diminue l'effectif de Barkhane, tout ça là. Il dit oui, c'est normal. Ce dont nous avons besoin, c'est surtout vraiment le contrôle satellitaire et la force de frappe aérienne. Et je crois que donc il a été tout à fait logique avec lui-même. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense aussi. Donc, je pense que c'est très logique. Il ne s'est pas contredit. Et il a dit vraiment ce qu'il pense, comme il le sait le faire, même si parfois ça ne fait pas trop plaisir ou à nous ou à quelqu'un d'autre.
Est-ce qu'on
Donc,
peut dire que c'est cela le souhait des populations du Sahel?
oui, je pense que si. Je pense que si. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de bévues, de malentendus entre la population et notamment l'armée française. Les Allemands ne se font pas trop voir et, comme le disait Garay, ils sont surtout dans la logistique, dans l'appui technique, ainsi de suite. Mais à plusieurs reprises, à Gao et dans en Songo ou quelque chose comme ça, les forces ou onusiennes ou françaises ont été confrontées à la population qui a même parfois demandé tout simplement leur retrait de leur localité ou leur départ du Mali. Et donc vraiment, on ne peut pas aider quelqu'un sans qu'il ne le veuille. Et ça, c'est un, la population est très d'accord, je crois, qu'ils savent que c'est vraiment avec la force aérienne, avec le contrôle aérien, si vraiment ils le désirent bien, qu'ils peuvent nous aider. Parce que nos soldats, à terre, ils sont aussi valables que tout autre soldat. C'est le terrain sur lequel ils sont nés et ils ont grandi. Et la population, s'y reconnaît. Et donc, vraiment, je pense
Ils ont
que
besoin juste d'un accompagnement,
vraiment, ils ont
vous
besoin d'un
pensez?
appui. Vraiment, en armement, il faut être très, très clair dans cette logique-là. Et un savoir-faire, comment manipuler les engins, comment encercler, comment vraiment s'y prendre sur le terrain. Ça aussi, ça s'enseigne. Et nos militaires, la plupart d'entre eux, c'est en Europe qu'ils vont pour faire leur stage, leur formation pour passer des grades. Et je crois que souvent, il est arrivé qu'ils s'imposent. Ils sont parfois majeurs de leur promotion, vraiment ils sont assez, je dirais,
Perspicace.
perspicaces, assez efficaces, assez brillants. Et donc, vraiment, ce dont nous avons besoin, c'est ce qu'on n'a pas. Nous ne fabriquons pas des armes. Nous n'avons pas assez de moyens financiers pour nous les procurer. Et c'est de cela qu'il s'agit. Je crois qu'avec ça, et avec ceux qui sont là pour appuyer au plan logistique et tout, je crois que nos militaires peuvent s'en sortir. Moi, à mon avis, le président de la République a vu juste. Et surtout, c'est l'aspiration de la population. Je crois qu'il a pris en compte.
Merci à vous, Hussein Issa. Cet avis de Mohamed Bazoum est-il partagé par les autres chefs d'État, notamment du G5 Sahel? C'est-à-dire cet avis qui consiste à dire que on a besoin de soutien, mais pas de soldats, pas de présence militaire. Le plus important, c'est surtout l'appui en termes de logistique.
C'est toi qui dois prendre les dispositions pour sécuriser ta maison d'abord.
Bien sûr.
N'est-ce pas? Si tu dois faire appel à quelqu'un, tu vas le payer, il ne va pas faire bien le travail. Même si tu le payes bien. Voilà un peu la logique de Bazoum. Cette situation qu'on est en train de vivre pendant pratiquement plus de 6 ans, c'est lié au fait tout simplement que les États ont décidé de démissionner. On a des armées qui sont là, qui sont sur le terrain, des gens qui sont payés à la fin de chaque mois. Parce qu'il y a la France qui est venue pour arrêter la progression des individus là, vers le monsieur Bamako. Les gens ont considéré que non, maintenant, Oui, dans le même temps, on prend l'argent, on dépense. On sort l'argent public. Moi, je pense que Bazoum a tout à fait, et je le soutiens, 100%. Ce dont on a besoin, c'est vraiment l'appui technique. Vous voulez nous aider à lutter contre ces gens? Donnez-nous les moyens. Créez les conditions de formation de nos soldats. Quand bien même ils sont déjà des soldats aguerris, je sais de quoi je parle. Donnez-leur les moyens nécessaires. Envoyez-nous les moyens, les munitions et tout et tout. Si vous voulez, vous pouvez vous en... Donnez-nous des avions. Des avions de chasse.
Des radars.
Mais alors, comme ça, on va former, vous allez former nos pilotes qui vont prendre ces avions-là.
Merci. Moi, à je vous. Pense que. Gary Amadou, peut-on déduire là que le nouveau chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'oppose aux bases militaires présentes au Sahel et notamment au Niger?
Bon, dire qu'il s'oppose aux bases militaires, mais le schéma actuel de l'intervention extérieure au Niger, il est contre. Et je crois que ce n'est pas une surprise pour celui qui a suivi un peu le déroulement du fil de l'élection du président Bazoum jusqu'à son accession au pouvoir. Parce que deux jours avant son investiture, France 24 et RFI étaient venus pour qu'il leur accorde une interview. Yes. Il a accordé l'interview et dans cette interview-là, il a déjà parlé de ça. Il a dit le schéma actuel là, montre que Barkhane est inefficace. Barkhane n'a pas empêché les massacres de Tchombangou, Zaroum Daré. Barkhane n'a pas empêché les massacres à Solan. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas au Burkina. C'est vrai, c'est un détail qu'il faut le dire. Le Burkina n'a pas souhaité la présence de l'armée française sur son territoire. Ça peut expliquer pourquoi peut-être le Roc n'a pas eu besoin de parler de ça, par exemple, de la présence des le Burkina n'en a pas voulu. Mais les massacres qui sont passés au Mali, partout, Barkhane n'a pas pu les empêcher. Donc, il y a une inefficacité des troupes terrestres. Il l'a dit. Il dit ce dont on a besoin, parce que pour le moment, on n'a pas la capacité pour avoir la capacité pour la maîtrise de l'aérien, la maîtrise de l'enseignement aérien. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment l'appui en matière de renseignement. 200 personnes qui viennent à moto attaquer un village qui traverse une frontière, c'est visible par satellite. Donc, on a besoin de ces renseignements-là pour permettre à notre armée de faire. Il a dit, c'est notre armée qui va faire le travail. Je suis d'accord avec ce que Cousin a dit. C'est notre armée qui va faire le travail. Maintenant, quand on a des besoins spécifiques, on va faire la demande pour qu'on puisse nous appuyer. Et ça, je crois que c'est un grand tournant. Mais heureusement que la France aussi a compris cela. L'inefficacité des troupes au sol. Et c'est pourquoi Macron a annoncé un processus de réduction des troupes françaises jusqu'à les amener d'ici 2022 à 3000 hommes. Est-ce que vous comprenez? De 5100 hommes ou plus, les ramener à 3000 hommes. Donc il y a une réduction. But la France a compris l'inefficacité. Il a dit, le président Macron, et je crois que tout le monde est d'accord sur ça, ce qui fait la force de la France au Sahel aujourd'hui, c'est les opérations spéciales. Et en matière d'opérations spéciales, la France effectivement efficace. Parce que la France a liquidé beaucoup de chefs terroristes. Elle a liquidé le fondateur de ACMI, Abdelmalek Droukdel, il n'y a pas longtemps. N'est-ce pas? Vers la frontière algérienne, qui était venu à Gao, il voulait retourner, ils l'ont tendu et puis ils l'ont liquidé. Ils ont liquidé Djamel Okacha, un autre djihadiste algérien de renom. Ils ont liquidé un autre djihadiste qui s'appelle Ali Maïchou, qui est un Marocain. Sans oublier d'autres djihadistes qu'ils ont tués. Vous comprenez? Donc, en matière d'opération de forces spéciales, en matière d'opération commando, l'efficacité des forces françaises est avérée. Et, quoi qu'on dise, la liquidation des chefs, là, est très importante. Parce que, quand on liquide un chef, on porte un moral, en tout cas aux troupes, au sol. Donc, les djihadistes, là, qui entendent que leurs chefs sont tués, forcément, ça porte un coup. Donc, il s'agit de restructurer cette lutte contre le terrorisme, là, n'est-ce pas? Faire en sorte que on va se contenir plutôt sur la force Takuba. Parce que la force Takuba, c'est une sorte de... C'est une force qui regroupe les forces spéciales de plusieurs pays occidentaux.
Bien sûr.
Mais qui seront
avec
vraiment...
Voilà. Adhésions,
donc, voilà. Mais qui seront vraiment axées sur les opérations de forces spéciales, des opérations commando contre des cibles. Mais en matière d'opérations terrestres, là, Barkhane est complètement inefficace. Elle n'empêche pas, j'ai dit bien, les massacres. Elle n'empêche pas l'attaque des camps militaires. Heureusement que le Niger a changé de stratégie. Aujourd'hui, au niveau de la région de Tillabéri, on n'a plus de camps fixes, camps militaires fixes. Mais plutôt, c'est des troupes tout le temps mobiles qui bougent. Et c'est ça qui perturbe un peu la stratégie des terroristes. Et c'est ce qui explique ce qui s'est passé avant-hier au niveau de Tchombangou, où les terroristes sont venus tuer un imam et ses enfants. Et ils pensaient pouvoir, comme d'habitude, retourner tranquillement. Quand ils sont tombés nez à nez face aux militaires, il y a eu une déluge de feu. Et c'était vraiment la débandade complète, comme l'a dit Ousseini.
Merci, Gary Amadou. Il faut le dire justement que la France, à travers son président Emmanuel Macron, a rappelé à l'occasion de la fête nationale française que c'est la France qui a beaucoup contribué à la stabilité du Sahel et que si la France n'avait pas intervenu à différents niveaux, les pays du Sahel seraient perturbés par ce terrorisme qui secoue. Rappelons donc aussi que le lendemain de cette visite de travail d'amitié en Allemagne, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a été en France, d'où il a participé par visioconférence à une conférence extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel. Les principaux points à l'ordre du jour de cette rencontre virtuelle étaient l'évaluation de la situation sécuritaire au Sahel et le point des recommandations du sommet de N'Djamena de février 2021, ainsi que la désignation du nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel. Le nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel est un diplomate burkinabé en la personne de Thierry Yamdaougou Erika. À quel changement peut-on s'attendre sur le terrain avec le nouveau secrétaire général du G5 Sahel, Arimi?
Ben écoutez, je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter encore, mais je crois que le changement fondamental auquel le G5 Sahel va devoir s'adapter, c'est le départ des Français. Bon, c'est vrai que c'est plus de la moitié va rester au-delà de 2022 au moins, mais moi je pense qu'il y a une prise en main des forces nationales, n'est-ce pas, de la destinée de leur territoire. Et ça, je crois que personne ne s'attend à mieux. Et c'est des choses que certaines associations nigériennes et même au plan africain ont beaucoup revendiquées. Et je pense qu'il tombe à un bon moment, puisque déjà les Burkinabés, Gary vient de le dire, n'ont pas accepté l'intervention vraiment française sur leur territoire. Et aujourd'hui, je crois que c'est une très bonne chose. Donc, c'est à eux. L'histoire leur a donné raison. Et donc, sur notre territoire aussi, c'est nos militaires qui vont agir. Maintenant, l'autre aspect, c'est la présence du Tchad. Bon, c'est vrai que c'est des soldats très guerriers et tout. Déjà, ils ont leur venue ici avant juste le décès du président Idriss Déby. C'était pour suppléer un peu le départ des Français. Mais je pense que eux non plus, ce n'est pas nécessaire qu'ils soient là. C'est vrai que eux, chez eux, au nord en tout cas, ils ne sont pas dérangés. Mais au sud, il y a à faire encore. Parce que, oui, Boko Haram a visiblement vraiment diminué de force, mais ils doivent contribuer, puisque le Niger et le Nigeria ont pris l'engagement de lutter main dans la main contre ce groupe armé. Et donc, ils peuvent aller appuyer là-bas, de leur côté, du côté de leur territoire, pour vraiment en finir avec ça. Et ici, moi, je pense que les Nigériens, sur leur territoire, les Burkinabés et les Maliens peuvent vraiment faire face si on les responsabilise, on les met dans les conditions de travail, vraiment résister contre tout envahissement. Et dans tous les cas, pour des pays souverains, des pays indépendants, on n'a pas besoin vraiment que d'autres viennent nous défendre à notre place. Je pense que nos soldats ont la force nécessaire, la compétence nécessaire pour faire face. Et donc, c'est à ça que va s'atteler certainement le nouveau secrétaire général qui vient d'être nommé. Et comme il vient d'un pays déjà qui était dans cette posture-là, je crois qu'il n'aura pas du mal à implémenter ça dans les autres pays de la sous-région. Je pense qu'il faut lui souhaiter bonne chance et qu'il peut vraiment poser un acte indélébile qui peut être un tournant important vraiment dans la lutte contre les groupes armés.
Il faut rappeler que les chefs d'État du G5 Sahel ont par ailleurs à cette occasion salué l'adoption de la résolution 2570 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 16 avril 2021 demandant à toutes les parties au conflit en Libye de veiller à l'application intégrale de l'accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020. Ils ont par ailleurs exprimé leur profonde préoccupation en l'absence d'un plan de retrait des mercenaires étrangers en Libye, estimé à près de 30 000 combattants surarmés pour la sécurité des pays du G5 Sahel et de la sous-région. Houssein Issa, que peuvent faire les chefs d'État du G5 Sahel et leurs partenaires des pays du Nord pour mettre fin à cette situation en Libye?
Rien. En fait, quand je dis rien, quand les gens ne sont pas à mesure, imaginez, c'est qu'on est en train de vivre dans 5 pays, qu'on a des armées, on a tout, 5, 6 ans, ça a perdu. Il faut faire recours à des gens de l'extérieur pour venir nous aider. On a mis G5 Sahel, on passe le temps à faire des discours, des rencontres inutiles, qui n'apporte absolument rien du tout comme changement. On change de nomination, on fait des nominations à la tête, c'est juste des passations, c'est des postes de diplomates où la personne
va... Des postes rotatifs pour les pays.
Ou si c'est mon tour, je vais placer quelqu'un, il va trouver à manger pendant pratiquement un an, et puis après, bon, l'autre pays va proposer, on est là, on fait du bruit. Pendant ce temps, ces mêmes terroristes-là, c'est comme la situation en Libye. Quand on dit les résolutions, mais ces résolutions de l'ONU là, ça ne va jamais rien régler. Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Quand tu vois ces gens intervenir dans nos pays, la Libye avait quel problème quand ils ont décidé de venir bombarder Kadhafi? C'était quoi le problème? Rien. On a monté quelques gens à Benghazi, machin, tout ça. Ils se sont soulevés, on dit que Kadhafi c'est un dictateur et tout et tout.
Mais comment sauver ce pays? Mais depuis la mort de Kadhafi en 2011, il y a toujours ce problème.
L'Irak, je te pose la question. C'est d'abord l'Irak, en 90. C'était quoi le problème? Ils sont allés bombarder l'Irak. L'Irak ressemble à quoi aujourd'hui? Ça ne va jamais finir. Quand on instaure une situation de crise, de guerre, c'est tellement compliqué pour éteindre, pour ramener la paix. Il faut quelque part, excusez-moi encore, la mettre. Et après, on dit, il faut trouver solution à ça. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation en Libye. Il y en a beaucoup qui se retrouvent. Les ministres, là, on peut les désarmer. Qui va les désarmer? Ça va qu'être le discours. Les gens vont faire le discours. Ah, voilà, il faut trouver machin, ceci, cela, à l'issue d'une réunion. Et puis, les gens se séparent. Ça fait combien d'années que ça dure? Ça fait combien d'années? Où les autorités reconnues légalement même ont des difficultés pour gérer le pays parce qu'ils ne contrôlent pas l'entièreté du pays. C'est des portions. Il y a des portions qui sont dirigées, contrôlées par des factions armées. Ils vont faire comment? Qui gagnent leur vie dedans et qui n'ont pas envie et qui vont combattre ceux qui vont vouloir venir les combattre. On aurait pu laisser Kadhafi jusqu'à... Les gens sont allés dire à l'Occident que non, c'est un dictateur, il faut mettre fin, il faut faire la démocratie. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie, c'est ce qui se vit en Libye là. Où les gens, les Libyens étaient carrément classés mondialement. Hein. Mondialement, je crois, 4e ou 5e.
Gaga Modou, comment sortir la Libye de l'impasse? Puisqu'on voit bien que pour avoir une sécurité forte dans le Sahel, la Libye en dépend partiellement.
La Libye en dépend même totalement, parce que la plupart des armes qui circulent actuellement au Sahel, ça provient de la Libye. Ça provient des entrepôts libyens. Mais je crois que je ne veux pas être aussi fataliste que Hussein. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que, déjà, sur le plan de la situation en Libye, on sait que le général Khalifa Haftar et Faiz al-Sarraj, les deux qui se partagent le pouvoir en Libye, ont décidé donc comme un accord de s'entendre pour qu'on mette un premier ministre qui va mettre les jalons, enfin jeter les jalons de, en tout cas, la formation d'un prochain, d'élections libres et démocratiques d'abord. Et la je pense que la clé de la solution, ce serait l'instauration d'un régime unique au niveau de la Libye qui va un peu gérer tout le pays. Il n'y aura plus de factions, il n'y aura plus de, d'un côté quelqu'un qui gère les pays pétroliers de ce côté-là, de l'autre celui qui gère la Tripoli, etc., etc. Il y aura un gouvernement unique qui va diriger tous les Libyens. C'est ça la solution. Et je pense que la communauté internationale a un rôle à jouer
en accompagnant. Cela, que faire avec les milices? Est-ce qu'on pourra arriver désarmer
Les milices, on ne peut pas les désarmer tant que le processus qui a été enclenché là. Vous savez que le premier ministre est libyen qui a été désigné donc comme un accord avec toutes les parties, il a été reçu en Europe. Et donc, est-ce que c'est le processus même qu'on doit accompagner pour que des élections libres se déroulent. Tant qu'il n'y a pas d'élections libres, là, les milices là, obéissent à des hommes, ils obéissent à des généraux, ils obéissent à des chefs de tribus. C'est compliqué la situation de la Libye. C'est des tribus qui existent, par, je ne sais pas moi, où chacun a une parcelle de pouvoir. C'est compliqué. Maintenant, concernant la question que vous avez posée sur le nouveau secrétaire permanent du G5 Sahel, je pense qu'il doit s'adapter à la nouvelle tournure que prend la coopération, en tout cas la lutte contre le terrorisme. Je vais vous donner un exemple très simple. Lui, c'est un Burkinabé, et s'il y a quelqu'un qui connaît l'importance de la coopération sous-régionale entre les pays, c'est bien le Burkina Faso. Il y a deux semaines de cela, il y a eu une opération militaire conjointe menée par le Niger, l'armée nigérienne et l'armée du Burkina, l'opération Tanli, ça s'appelle. Une opération qui a été menée pendant plusieurs jours et qui a permis de neutraliser une centaine de terroristes, de récupérer du matériel, vraiment, et de redonner de l'espoir aux populations. Je pense que le nouveau secrétaire général, enfin secrétaire permanent du 5 Sahel, va s'adapter à ce nouveau contexte-là où les pays du Sahel veulent moins d'interventions de troupes étrangères, mais plutôt une coopération sous-régionale afin de booster le terrorisme au de nos territoires. Et je pense que c'est faisable. Ce que les Burkina et le Mali ont fait, le Burkina et le Niger ont fait lors de l'opération Tanli prouve que avec la coopération sous-régionale entre les pays, on peut obtenir. Et ce qu'on a obtenu avec la force multinationale mixte, le secteur 4 de la force multinationale mixte au niveau de DIFA, prouve que grâce à nos propres moyens, on peut obtenir des résultats.
Je vais te dire une chose. Les Occidentaux, là, si vous comptez sur eux pour venir régler les... Non, je vais le dire.
Garry n'a pas dit qu'ils sont totalement confiés sur eux.
La communauté, c'est quoi la communauté internationale? C'est qui la communauté internationale? C'est qui?
Il faut rien faire.
Non, mais il faut rien faire.
Mais si on vous a bien suivi, on vous a bien suivi. Arrivé, vous avez un mot où tourner cette page.
Sur la Libye, en fait, il faut savoir que malheureusement, il n'y a pas que l'intérêt des Libyens qui est en jeu, qui est pris en compte. Généralement, quand il y a une détérioration vraiment au niveau d'un pays comme ce qui s'est passé en Libye, ce que les puissances mondiales, n'est-ce pas, se projettent dans le futur et chacun essaie de savoir, essayer de faire des calculs pour voir comment est-ce que d'abord ceux qu'ils ont investi en intervenant dans ce pays-là, ils vont récupérer et quel est leur intérêt, n'est-ce pas, selon celui qui sera aux affaires, n'est-ce pas, pour satisfaire tous leurs besoins sur ce plan. Et d'ailleurs, il y a certains théoriciens qui pensent même que c'est la crise économique en Europe qui fait que des guerres sont sciemment provoquées, et de histoire de vendre des armes, des munitions, n'est-ce pas, du savoir-faire, comme ce que qu'on nous vend actuellement et tout. Et donc, ça peut il y a certainement une part de vérité. Et aujourd'hui, beaucoup se posent vraiment en termes de reconstruction. Une ville comme Tripoli, aujourd'hui, pour qui a connu Tripoli il y a 10 ans, 15 ans, il y a du boulot à faire. Et ça, c'est ce qui s'est passé en Koweït. Hein. Au Niger, ici, on nous a donné quelques ouvriers pour aller. Mais beaucoup de pays ont engrangé énormément d'argent et donné des crédits pour pouvoir vraiment se refaire eux-mêmes au plan économique. Ça, c'est des choses dont il faut malheureusement tenir compte. Parce que si on ne veut pas la guerre, c'est simple. C'est d'arrêter la vente des armes, par exemple. Qui nous vend? Nous, on ne fabrique pas des armes. On nous amène les armes de quelque part. Les terroristes ont les armes de quelque part aussi. C'est les Occidentaux qui savent fabriquer des armes. Ce n'est pas nous. Des trucs sophistiqués, chaque jour plus mortels les uns que les autres. Ce n'est pas nous qui les fabriquons. On n'a qu'à arrêter la vente des armes ou leur fabrication. On serait tranquille.
Que faire? C'est ça la question de Michel. Que faire maintenant?
Aussi simple que ça. Non, d'abord, les Libyens doivent se résoudre à pour vouloir vraiment travailler entre eux. Les responsables des factions, les responsables politiques actuels, ils ont la lourde responsabilité de sauver la terre de leurs ancêtres. C'est de cela qu'il s'agit.
Merci beaucoup. Toujours au cours de cette visite de travail en France, le président de la République, Mohamed Bazoum, a co-animé dans l'après-midi du vendredi dernier une conférence de presse avec son homologue français Emmanuel Macron, une sortie médiatique qui s'est appesantie sur les modalités de la reconfiguration de la présence militaire française au Sahel qui va progressivement se concentrer à Niamey, au Niger, dans le cadre de la Task Force européenne Takuba. Gary Amadou, qu'en pensez-vous par rapport à cette perspective de reconfiguration envisagée par la France au Sahel?
C'est vraiment une bonne nouvelle, le fait que la France elle-même constate l'inefficacité de ses troupes au sol et qu'elle décide de reconfigurer. C'est pratiquement un mea culpa qui est fait à la face du monde. C'est-à-dire on prouve que voilà, on va réduire nos forces parce qu'elle ne sert pratiquement à rien et on n'arrive pas à avoir de résultats. Parce que, en même temps que les forces étrangères sont sur nos sols, mais en même temps, les forces terroristes sont montées en puissance. Elles mènent des attaques, elles attaquent des camps militaires. Vous savez? Donc, je pense que le fait de redéployer ces forces-là dans le cadre de la force Takuba est un gage quand même de beaucoup plus de résultats, surtout en termes de ciblage des leaders terroristes qui sont dans la ligne de mire des forces françaises et des forces américaines. Parce que, au cours de chaque opération commando contre un dirigeant terroriste, la France appelle au soutien des forces américaines en matière de renseignement aérien. C'est deux puissances combinées qui arrivent à localiser les chefs terroristes et à le liquider. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Et cette dynamique-là, on devrait plutôt la renforcer et faire en sorte que nos armées qui sont en train de monter en puissance puissent continuer à avoir maintenant un soutien aérien en matière soit de renseignement, surtout de renseignement, d'images satellitaires, de renseignement satellitaire. Ça coûte cher, c'est vrai, mais si on pense qu'on lutte contre le terrorisme, contre cette menace globale-là, eh bien, on ne doit pas regarder ce que ça coûte. On doit aider nos pays en leur disant que, voilà, il y a une nuée de motos qui essaient de traverser la frontière, 200 ou 300 motos qui essaient de traverser la frontière. De tel côté, allez-y, interceptez-les et détruisez-les.
Signalons aussi que dans le discours qu'il a prononcé la veille de la fête nationale française du 14 juillet, Emmanuel Macron a présenté les perspectives de la France pour le Sahel en déclarant, je cite, « Il nous faut faire évoluer l'opération Barkhane pour progressivement en sortir et bâtir notre présence au Sahel au travers de deux piliers. La coopération avec les armées du Sahel, un travail d'appui et de sécurisation aussi profond de notre socle avec deux implantations essentielles, Niamey, où le commandement de l'ensemble des opérations sera tenu, et également l'intégration avec nos partenaires sahéliens, et N'Djamena, où nous sommes déjà présents et où nous maintiendrons la présence. » Fin de citation. À Macron de continuer pour préciser que c'est au premier trimestre 2022 que la France mettra un terme à l'opération Barkhane en bon ordre. Quelle analyse, Houssain Issa, par rapport à ces propos d'Emmanuel Macron qui annonce la constitution d'une action de lutte contre le terrorisme avec un commandement basé à Niamey?
Oh, mais on va délocaliser ce qu'il y a là-bas au Mali, on va nous amener ça. N'est-ce pas? Ça dit qu'il y a des bases ou des unités opérationnelles au Mali qui vont se repositionner, qui ont commencé d'ailleurs à se repositionner. N'est-ce pas? Dans la zone de Wallam. Je ne parle pas dans le vent comme ça parce que je sais de quoi je parle. Depuis 2012, pratiquement, la première opération pour empêcher aux djihadistes d'aller prendre Bamako, ils sont là. On a transformé la force, c'était pervi, et comment on appelle ça? Serval d'abord, et un premier temps, ensuite c'est devenu ceci, cela. Aujourd'hui, voilà, je vais partir. Mais je ne pars pas. Je ne pars pas parce que je ne vais pas laisser le terrain à d'autres. Voilà un peu l'enjeu. On va restructurer. On va amener, on va maintenir de 5100 ou 5200 hommes. On va ramener à 3000. Mais voilà comment les choses vont se passer. La force Takuba. La force Takuba. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas à l'annonce de Macron. C'est une force qui a été créée depuis. Est-ce que c'est une force qui dispose donc? Une force européenne. qui va venir.
Que faut-il alors attendre de cette réorganisation?
Rien. Absolument. Ou bien on parle nos responsabilités. Vous convenez... Non, on parle nos responsabilités.
Oui. En fait, on vous a compris. Vous.
Je comprends parfaitement ce que Hussein dit. Et la France doit se résoudre à laisser les pays victimes de ces attaques-là, ces pays qui sont menacés, décider de ce qu'ils veulent.
De leur avenir.
Mmh. Et malheureusement, on constate que la France a du mal à laisser tomber. Mmh. La France ne parvient pas. Même au Mali, ils ont dit qu'ils arrêtaient, qu'ils quittaient le Mali et tout. Un beau matin, on voit non, la collaboration entre l'armée française et l'armée malienne a repris. Mmh. Et maintenant, on est rentré dans ce débat de Takuba et autres. En fait, je crois qu'il faut se faire violence. Mmh. Macron, quand il est venu, il a dit que lui n'a pas connu la période de la colonisation. Comme nous autres, il y a un enfant post-colonisation. Et que vraiment, il va traiter, entre guillemets, d'égal à égal avec les dirigeants africains. Mais ce n'est pas le cas. La présence militaire, c'est d'abord, comme vous le savez, symbolique. N'est-ce pas? Donc, je suis sur un territoire, tout comme après la conférence de Berlin.
Vous pensez que c'est synonyme d'aliénation?
Oui,
de
moi,
cette
je pense
souveraineté.
Que. Non, même pas au niveau de. À notre niveau aujourd'hui. Mm-hmm. C'est au niveau même de l'ancien colonisateur que c'est comme ça, c'est ancré dans leur tête. Aujourd'hui, qu'ils ne soient pas au Niger et que c'est par exemple la Russie qui vient ou l'Allemagne qui vient, ils ont. C'est ce que je sens. Oui, ils ont un sentiment qu'on leur a arraché le Niger. Il est grand temps qu'ils se disent que le Niger appartient aux Nigériens, n'est-ce pas? Je suis un partenaire désormais séculaire, n'est-ce pas? Je peux collaborer dans ce pays-là sans même avoir un seul militaire et ça va marcher.
Merci.
Je crois que c'est des violences qu'il faut se faire. S'il y a un changement de comportement qu'il faut cultiver, à leur niveau même. Aujourd'hui, ce n'est même pas nous qui avons des problèmes en réalité. Mmh. Ils disent que ça coûte énormément cher la présence de leurs forces sur nos territoires. Mais même quand on dit, quand la rue même dit de quitter, ils ne sont pas capables de quitter. Je crois qu'il y a quelque chose à revoir à leur niveau d'abord.
Merci. Nous passons à présent au dernier sujet de ce forum de la presse. Il s'agit de la visite de travail et d'amitié de 72 heures effectuée par le président Bazoum Mohamed à partir de lundi 12 juillet dernier dans la capitale algérienne. Au terme de cette visite, les deux chefs d'État ont décidé de l'ouverture de la frontière terrestre pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Gary Amadou, quels sont les enjeux de l'ouverture de cette frontière entre le Niger et l'Algérie, frontière restée fermée depuis mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.
Pense que la réouverture de cette frontière-là va permettre de mettre fin à la contrebande, parce que moi j'étais à Agadez il y a quelques jours de cela, et j'ai cru comprendre que c'est vraiment par la contrebande que la plupart des produits arrivaient au niveau de la région d'Agadez. Mmh. Vous avez des commerçants qui vous disent qu'ils risquent leur vie en prenant leur véhicule pour partir en Algérie, prendre des produits alimentaires et tout, et venir ici par contrebande pour amener au niveau de la région d'Agadez et vendre. Donc, je pense que la réouverture de cette frontière-là va permettre plutôt de mettre en place un processus d'échange commerciaux plus correct et plus équitable quoi, entre les deux pays, où les pays vont pouvoir retirer les avantages de cette coopération-là. Mais une fois de plus, je veux vous dire, la coopération internationale, ce n'est pas de la philanthropie. C'est-à-dire que, pour revenir à la question de la présence française, si la France quitte, elle laisse la place, quelqu'un vient, il occupe la place. Mmh. Et ce gars qui vient, c'est pas pour nos beaux yeux qu'il va faire là. C'est pas pour nos beaux yeux. Mmh. Et vous vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de conflit géopolitique au niveau du Sahel qui fait qu'il y a plusieurs puissances qui sont aux aguets. Si l'une quitte, une autre viendra. Ça, c'est clair et net. Il ne faut pas que les gens se fassent des illusions. Et celui qui vient, je le dis, il vient parce qu'il a des intérêts. Le Sahel est riche. Et je crois que c'est ça notre malheur. Et donc, je pense que pour revenir à cette question de l'ouverture de la frontière, c'est quelque chose de très important, n'est-ce pas, entre les deux pays, parce que je dis, les régions qui sont situées au niveau de la frontière ont beaucoup souffert de cette fermeture de cette frontière-là. Et je pense qu'il y aura de l'embellie cette fois-ci.
C'est donc au bénéfice des populations des deux pays
bien
vous
sûr.
Vous pensez en ce qui concerne les travailleurs nigériens en Algérie, le président algérien Abdelmajid Tebboune a déclaré lors d'une conférence de presse, je cite, « Nous sommes d'accord pour nous entendre sur une politique claire. Rappelons que l'Algérie est un pays qui refoule régulièrement vers le Niger des migrants de plusieurs nationalités. Depuis le début de cette année 2021, 3 719 migrants ont été expulsés vers le désert à la frontière avec le Niger, rapporte un article du journal Info Migrants en date du 25 mars dernier. Houssein Issa, que faut-il attendre de cette nouvelle coopération entre le Niger et l'Algérie dans ce contexte?
Mais quelque part, moi, je dis, bon, si vous savez, la fermeture des frontières est liée à un contexte sanitaire.
Bien sûr.
Covid. Mmh. Tout le monde a fermé, n'est-ce pas? Maintenant, mais bien avant, quand la frontière était déjà ouverte, comme ça, on ramasse des gens en Algérie, on les met dans des camions, on vient les déverse à des kilomètres de la frontière, c'est à pied, ils traversent, il y en a qui meurent. Tout ça. Est-ce que ce point-là a été posé? Quand on prend, quelle que soit la nationalité, c'est au Niger qu'on vient déverser. On ne cherche pas à savoir la nationalité, on dit que non, ils sont rentrés par le Niger. Je pense que...
Qu'est-ce qu'il y a lieu d'attendre à présent?
Qu'est-ce qu'il y a lieu d'attendre? Ce n'est pas moi, parce que je me dis que, bon, je prends ça avec des pincettes, tout ce qui a été annoncé là. Je prends avec des pincettes. Parce que venir déverser des gens qui sont venus par le Soudan souvent, qui viennent, on dit que non, c'est au Niger qu'ils sont. On les prend, on vient, on les débarque chez nous. Souvent des gangsters, des brigands et tout et tout. J'ai été dans des camps, j'ai vu dans des camps, ici à Hamdelaï, où les gens soudanais...
Avec le machin, nouveau président de la République, qu'est-ce qu'il y a lieu de mettre fin à ça, vous pensez?
Mais alors, il a dit qu'il a discuté, et voilà. Les gens sont contents de la réouverture. Il y a toujours eu cette coopération entre l'Algérie et le Niger. La coopération sur le plan commercial et économique, il y a toujours eu ça de tout temps. De tout temps. C'est des gens qui sont venus mettre des frontières pour dire, bon... Et prendre des mesures à l'époque, bon, il n'y avait pas tout.
Merci
ça.
Houssein Issa, Aboukiari Arimi.
Ce qu'on peut faire quand même, c'est vraiment, avec l'ouverture, on peut, de façon formelle, de façon légale, aller chercher des produits que nous n'avons pas. Vous savez, on est un pays, déjà on a des problèmes avec
le
Bénin, avec le Bénin, avec le Burkina, on a déjà des problèmes. Donc diversifier par où on peut faire rentrer nos produits, même vivriers, vraiment c'est important pour nous. Et je crois qu'il a très bien vu le président Bazoum en...
Merci. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangou. Nous disons merci à nos invités Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Aboukiari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Houssein Issa, journaliste indépendant. Merci aussi à vous, chers auditeurs, auditrices et téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 46 radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur le thème rôle des chefs traditionnels dans la préservation de la cohésion sociale à Moyen-Osogoa, région de Diffa. Et dimanche, le forum en Zarma sur le thème l'adultère au sein des foyers, causes et conséquences. Encore merci, excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.